Alors nous allons poursuivre notre étude de la première épître aux Corinthiens. Nous étions rendus au chapitre 13, un chapitre bien connu, auquel on fait souvent appel beaucoup plus l'occasion des mariages. Mais il y a bien plus que ça là-dedans, il y a bien plus que ça, et nous allons le voir. Alors rappelons-nous, ça fait déjà quelques semaines, quand nous avons vu le chapitre 12, Paul terminait le chapitre 12 en encourageant les Corinthiens à aspirer aux dons les meilleurs. Pas aux meilleurs dons, selon leur entendement, mais aux dons les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui édifient l'Église, ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu. Et il n'a pas continué, c'est curieux, il n'a pas continué, il a comme interrompu le développement de ce sujet sur les dons, et il vient intercaler ce chapitre 13 pour parler donc de l'amour. Il parle de l'amour comme devant être un style de vie, il parle de l'amour comme étant la voie par excellence, donc, et que pour y arriver, il faut donc développer cet amour en nous. Amen. Après avoir un peu repris les gens en montrant tous les méfaits, la façon dont ils gèrent mal les dons qu'ils ont reçus de Dieu, c'est clair que le chapitre 13 vient comme un peu une bouffée d'air, comme une bouffée d'oxygène un peu, pour leur permettre de respirer un peu. Ça fait du bien au milieu de plein de difficultés qu'ils avaient par rapport à tous les problèmes donc, qu'il y avait à l'église de Corinthe. Il en parle donc parce qu'il a constaté l'intérêt exagéré, nous l'avons dit, un intérêt exagéré pour les dons. C'était une course que les gens faisaient pour avoir des dons spirituels, les dons spirituels. Il dit, mais il y a bien plus que ça, il y a bien plus que ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas négliger ce don-là, cette voie par excellence donc, qu'il va développer dans ce chapitre 13. Et la manière dont il va le montrer, c'est pour insister sur montrer l'importance et l'objectif auxquels doivent servir les dons spirituels. Ce n'est pas juste les avoir pour les avoir, mais les objectifs. Il y a un objectif. Quand Dieu donne, distribue ses dons, il y a un objectif qu'il poursuit. Il y a aussi des limites jusqu'où on peut aller avec ses dons. Ouais, on s'en sert n'importe comment parfois. Alors, il y a aussi des limites qu'il va falloir donc respecter. Et le chapitre 13, c'est vraiment une véritable apologie. Donc, il vante les mérites de l'amour, l'amour agapé, hein? Pas l'amour fraternel, pas l'amour qui est lié au sentiment, c'est vraiment pas ça. Donc c'est vraiment l'amour dont Dieu nous a aimés, vraiment c'est cet amour dont Dieu nous a aimés, cet amour par lequel il a sacrifié le meilleur qu'il avait évidemment, cet amour qui se soucie de donner plutôt que de recevoir, cet amour qui met le bien de l'autre au devant. C'est vraiment de cela qu'il va parler ici. Nous allons donc voir qu'il subdivise ce chapitre 13 en trois parties et je ne vais pas le lire en entier. Il n'est pas long, mais il est très riche, et très riche. On va lire les trois premiers versets du chapitre 13 et puis on prendra, il y a trois blocs, donc de 1 à 3, de 4 à 7 et puis de 8 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert à rien. D'abord, il va insister pour montrer que l'amour doit être le motif pour lequel les dons nous sont donnés. Nous exerçons les dons et nous devons les exercer motivés par l'amour. Amen. Ce n'est pas motivé par une concurrence, ce n'est pas motivé par une petite gloriole personnelle, mais ce qui doit nous motiver quand nous exerçons les dons, c'est que nous devons être motivés par l'amour. Alors, il répète toutes sortes de choses que nous pouvons avoir. Il dit, je peux avoir toutes ces facilités de parler en langue. Et il s'inclut dedans. Il dit « je » parce qu'il parle de lui-même. Il dit « je m'inclus dedans, je ne suis pas exclu de cet exercice que je vais faire, je ne vais pas me soustraire. Je peux parler toutes les langues des hommes, donc toutes les langues que l'on peut comprendre, les langues de toutes sortes. Je peux connaître toutes les langues du monde entier. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Je peux parler toutes les langues des anges. Ce n'est pas que les anges ont une langue. Chaque fois que dans la Bible, les anges parlaient, il parlait dans un langage que les gens comprenaient. Hein? C'est juste dire, c'est le langage un peu extatique, dans, quand tu sors un peu de toi et que tu t'élèves au-dessus de tout et que tu ne sais même plus ce que tu dis, hein, c'est ce langage extatique par lequel tu t'adresses à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand tu parles même ces langues, c'est une langue incompréhensible aux hommes qu'on ne peut pas traduire, mais qu'on peut interpréter, par exemple. C'est pour ça qu'il faut aussi ce don d'interprétation, ça on le verra plus tard. Si on peut parler toutes ces langues, mais que si on n'a pas d'amour, si on n'est pas motivé par l'amour, on n'est rien. C'est inutile, ça ne donne absolument rien. Or, il y a des gens qui se vantent, ou qui se vantaient à Corinthe, à l'église de Corinthe, de parler toutes les langues, de parler plus de langues. Vous savez, les érudits de Corinthe, d'église de Corinthe, les Grecs et tous les autres qui étaient tellement érudits, tellement intelligents, ils s'enflaient de connaissances, nous l'avons vu quand nous avons étudié l'Épître. Et donc, ils le faisaient, en fait, davantage pour attirer l'attention sur leur propre personne. Et c'est ce que Paul veut justement, donc il dit, quand vous le faites avec ce sentiment là-bas, vous êtes comme de l'airain, vous êtes comme du bronze, vous êtes comme un son, justement que vous, on tape juste sur ce son-là pour qu'on puisse vous remarquer, vous faire remarquer, mais vous n'avez pas d'amour, ça ne vous donne absolument rien. Vous êtes comme du bronze, vous êtes comme des cymbales, un bruit simplement assourdissant et ça ne vous donne absolument rien. Malheureusement, il y a des gens qui se servent des dons aussi pour attirer l'attention sur eux, pour se faire remarquer. Ce n'est pas à cela que les dons servent. On peut connaître toutes les langues, on peut parler en langue, etc. Mais si vous n'êtes pas poussé par l'amour, ça ne donne absolument rien, c'est inutile. Il parle des autres dons. J'aurai aussi le don de prophétie, qui est la science de tous les mystères. Je peux avoir toute la connaissance. J'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le don de prophétie que des gens utilisent à toutes sortes de fins, à cette époque, comme aujourd'hui encore, pour des fins mercantiles de commerce, des gens qui s'en servaient, ce n'est pas nouveau, ça date de l'époque. Vous savez, l'histoire de Balaam qui connaissait la volonté de Dieu, mais on le pousse pour de l'argent, hein, à aller prophétiser contre le peuple de Dieu. Et il commence à jouer un jeu malsain. Il dit, attendez, je vais encore demander à Dieu. Dieu t'a déjà dit ce qu'il faut. Mais pour le goût de l'argent, tu risques d'être tenté d'aller prophétiser pour faire plaisir aux gens et des mensonges, des choses qui ne viennent pas de Dieu. On peut avoir le don de prophétie qu'il appelle la science de tous les mystères, qui permet de comprendre des vérités qui ne sont pas encore révélées, qui n'étaient pas encore révélées aux générations passées. Dieu s'est révélé par étapes, hein. Dans le temps, il s'est révélé par des signes, il s'est révélé à travers des situations, puis il s'est révélé par la suite quand Jésus-Christ est venu en personne, dit « quand vous voyez le Père », et puis il se révèle encore aujourd'hui par le moyen de la parole. Donc Dieu s'est révélé par étapes, et aujourd'hui on va voir d'ailleurs par la suite qu'on n'est pas au bout. On n'est pas au bout, ça veut dire que nous ne connaissons pas tout, ni de Dieu, nous ne connaissons pas tout de ce qui va venir. Il y a encore des choses qui nous sont encore étrangères. Donc, on peut avoir toute la science des mystères, on peut avoir toute la connaissance. Ça ne nous donne rien si on n'a pas d'amour. Toute la connaissance, elle est nécessaire, évidemment, parce qu'on a besoin de connaissance aussi. Sinon, on ne peut pas être édifié, on a besoin de connaître, on a besoin. Mais c'est une connaissance juste pour s'enfler, comme c'était à l'époque de Corinthe, ça ne sert absolument à rien. La connaissance enfle si on y prend garde. On peut avoir le don de la foi. La foi que, comme cette grande confiance, comme on disait tout à l'heure en débutant, une grande confiance en Dieu que je lui fais confiance parce que je sais qu'il m'aime. Je lui fais confiance parce que je sais qu'il me connaît, il ne m'abandonnera pas. Il sera avec moi, là où il me conduira, il sait où ça mène. Et puis, je peux lui faire confiance, je peux y aller les yeux fermés. Je peux avoir le don de la foi, le don d'une confiance dans la parole de Dieu. Je crois que c'est la parole de Dieu. Et ce qui est dit, je m'accroche à ce qui est dit dedans. Je peux avoir cette confiance. Je peux avoir. Mais si tout cela n'est pas accompagné d'amour, ça ne donne absolument rien. Amen. Avoir cette foi qui soulève les montagnes, comme il dit ici, cette foi qui permet de faire des choses qui étaient impossibles, les rendre possibles, tu peux l'avoir. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Il continue à développer cela. Sans amour, ces dons ne servent à rien. Sans amour, ces dons ne sont donc pas agréables à Dieu. J'ai pris une note ici concernant l'histoire de Jonas. C'est interpellant. Jonas, quand Dieu lui demande d'aller prêcher aux gens de Ninive, Jonas a refusé d'aller prêcher à Ninive. On va peut-être croire qu'il a refusé d'aller prêcher aux gens de Ninive parce qu'il avait peur de ne pas réussir ou de ne pas atteindre l'objectif. Mais non, c'est parce que lui, il connaissait. Hein, il connaissait la capacité de Dieu. Il connaissait plutôt l'amour de Dieu. qui aimait ces gens. Lui, il n'aimait pas les gens de Ninive. Il considérait comme étant ses ennemis. Il dit, mais il m'envoie vers les ennemis. C'est plutôt le refus parce qu'il connaissait l'amour. Il avait confiance qu'en allant prêcher à Ninive, les gens allaient se convertir. Donc, en réalité, Jonas n'était pas, même quand il est allé, il n'était pas mu par l'amour pour les gens de Ninive. Voyez-vous, je ne sais pas si je m'explique comme il faut. Il est allé, il sortit du ventre, il est allé et dit, je vais y aller. Mais même là, il n'est pas allé parce qu'il était poussé par l'amour. Il est allé, il a exercé son don juste par peur des représailles de Dieu, par crainte. J'ai déjà été dans le vent de poisson, je ne veux plus de problème. Et même quand il est arrivé là-bas, il dit, je savais que tu allais les pardonner, je savais que tu allais épargner ce peuple. Donc, il n'était pas poussé par l'amour. Tout ce que tu as, don de connaissance, don d'enseignement, don de ci, don de cela, si cela, tu ne le fais pas, tu ne l'exerces pas, dans le sens d'aimer, de la compassion des gens, ça ne te donne absolument rien. Donc, c'est ça. Le don de la foi, etc., ça ne te donne rien. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Jonas. Jonas n'aimait pas ce peuple. Il ne l'aimait pas. Mais il est allé juste parce qu'il avait peur. Amen, amen. Je peux aussi, comme dit le verset 3, pas seulement avoir des dons, je peux aussi distribuer tous mes biens. Ça paraît bien. Ça paraît bien. Vous savez qu'il y a des gens qui le font aussi pour être bien vu, pour qu'on dise, « As-tu vu les gestes qu'il a fait? As-tu vu ?» Ben lui, il donne, hein, il donne. On sait qu'il y a des gens qui le font pour que attirer l'attention sur eux. Je peux le faire, avoir le don, je sais pas, ou l'amour pour distribuer de tous les biens, etc. Je peux même aller jusqu'à m'offrir, comme il dit, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé. Je peux même me faire. Il y a des gens qui sont martyrs, pas parce qu'ils défendent la cause, martyrs pour qu'on retienne leur nom. Si ce n'est pas poussé par l'amour, ça ne donne absolument rien. Donc, je peux distribuer tous les biens, quel que soit le sacrifice, quel que soit le nombre de personnes à qui je distribue ces biens, si le motif est le moi, si le motif est mon intérêt personnel, si le motif est ma petite gloire, si le motif est qu'on parle de moi, ça n'a aucune valeur pour le bienfaiteur et ça n'a aucune valeur pour la personne qui serait martyre parce qu'il recherche plutôt leur gloire. Donc, il commence, chapitre 13, en montrant que l'amour est important dans tout ce que nous faisons, l'amour est capital. Versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, compris comme ça, l'amour, c'est une bonne clé, c'est une clé qui peut ouvrir toutes les portes. L'amour, expliqué comme ça, ça personnalise Dieu, c'est la qualité première de Dieu. Toutes ces choses-là, ça caractérise vraiment Dieu, etc. En premier lieu, l'amour doit être donc la norme dans tous nos rapports, pour que nous puissions avoir un comportement convenable vis-à-vis des semblables. L'amour, ce n'est pas juste dans les mots, dans la bouche, c'est vis-à-vis de ceux avec qui nous vivons. Ça doit toucher ceux avec qui nous vivons. Donc, ça doit être la norme qui nous dirige et qui nous guide. Alors, Paul énumère toutes ces qualités de l'amour. Nous allons voir une après l'autre qui reflète le caractère premier de Dieu. Et si nous voulons plaire à Dieu, nous devons imiter ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Paul montre que l'amour n'est pas donc juste une émotion. Mais l'amour se manifeste sous forme d'action. C'est des actions, être patient, ne pas être envieux, etc. C'est sous forme d'action. Ce n'est pas juste des sentiments que tu vis. Ça doit se concrétiser, ça doit se manifester sous forme d'action. Voilà pourquoi il personnifie l'amour. L'amour comme une personne est patient. Comme une personne, l'amour est patient. Il personnifie l'amour, est patient. Et les patients, la patience étant un des fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22, donc, l'amour est patient. Ça veut dire quoi? L'amour ne cherche pas la revanche. L'amour ne cherche pas le mal à l'autre. L'amour est patient vis-à-vis de ceux qui nous font du mal, vis-à-vis de ceux qui sont injustes vis-à-vis de nous. L'amour demeure patient. L'amour va supporter longtemps. Il va supporter longtemps les souffrances. Il va supporter longtemps les mauvais traitements dont nous pouvons être victimes. Un bel exemple, c'est dans l'histoire d'Étienne, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, 59. Pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et d'après ses paroles, il s'endormit. Jésus a fait la même chose quand il était sur la croix. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas, dans Luc 23, 24, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Poussé par l'amour, voilà jusqu'où on peut aller. Patient, accepter de souffrir, ne pas maudire ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent. Lui, il était lapidé. Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des injures qu'on lui disait. Il était lapidé jusqu'à en mourir. Et avec ça, il a été patient jusqu'au bout, jusqu'à dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur tient pas, ne leur impute pas leur faute. Et ceci est contraire. C'est pour ça que ça doit choquer un peu les gens de Corinthe. C'est contraire à ce qu'il y avait comme tendance dans le monde grec, dans la culture grecque, où la vengeance était valorisée. C'est ça, c'était valorisé. Il faut te défendre. Tu n'acceptes pas qu'on te marche dessus. C'est tout le contraire qu'il dit. L'amour est patient. Donc l'amour doit supporter. L'amour ne réplique pas. La vengeance, à cette époque, était une vertu. On te fait du mal, tu rends le mal. Mais ici, il dit l'amour doit être patient. Doit être patient. Et pour certains, malheureusement, la patience, c'est comme une faiblesse. Comment peut-il supporter jusqu'à là? Comment peut-il accepter qu'on te marche sur les pieds? Comment peut-il? L'amour est patient. Il n'y a pas 46 façons de le dire, c'est supporte et il ne cherche pas de revanche. L'amour est plein de bonté. La bonté, c'est la générosité, la bonté, c'est la serviabilité, la bonté, c'est la douceur, toutes ces choses qui est également, évidemment, un fruit de l'esprit. Et voilà donc un caractère qu'il faudrait revêtir, évidemment, pour nous chrétiens, évidemment, dans les rapports que nous avons les uns envers les autres. Si nous n'avons pas ce caractère de bonté, si nous n'avons pas ce caractère de générosité, si nous n'avons pas la douceur les uns avec les autres, c'est difficile de vivre ensemble, en famille, en communauté. Or, l'environnement dans lequel nous vivons présentement, l'environnement du monde dans lequel nous vivons, un monde difficile, un monde méchant, ben, ça nous donne beaucoup l'occasion de manifester ce caractère-là. Amen. Ça nous donne l'occasion de mettre ça en pratique. Donc, nous sommes bien dans le bon terrain, nous devons nous exercer à avoir justement cette bonté et ce caractère qui est spécial. Lui aussi, comme la patience, c'est aussi un caractère de Dieu. Le psaume 34, verset 9 nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est bon, c'est sa nature. » Alors, nous devons l'imiter, nous devons aussi développer cette bonté dans les rapports des uns envers les autres. L'amour n'est pas envieux. Envieux n'est pas jaloux. Il se réjouit de la réussite des autres. Parce qu'il y a deux formes de jalousie qu'on peut connaître. Il y a cette jalousie qui veut avoir ce que l'autre a. Moi, je la qualifie un peu un peu positive. Là. Elle est positive, celle-là. Je vais avoir ce que l'autre a. Ça ne sert mal le nuire, je vais avoir ce que l'autre a. J'ai envie ce que l'autre a. Mais par contre, il peut aussi avoir un autre type de jalousie qui est négative, c'est la destructeur même. C'est cette jalousie qui dit, oh, c'est ça. Je ne l'aurai pas, mais je ne veux pas qu'il ait ce qu'il a. Ça, c'est particulier à certains peuples, je n'ose pas dire lesquels, c'est vraiment particulier à certains peuples, c'est ça qui les caractérise. Donc, ils veulent du mal à l'autre, ils sont jaloux de l'autre, mais ils lui veulent du mal pour que l'autre ne continue pas à bénéficier de ce qu'il a. Lui qui veut le mal à l'autre n'aura même pas l'occasion de jouir de ce que l'autre a. Il n'est pas envieux, l'amour n'est pas envieux. Il faut se réjouir. L'autre est béni, tu dis, merci Seigneur, il est béni, mon tour viendra. Le temps de Dieu viendra pour moi. L'amour n'est pas envieux. Il y a un bel exemple dans la Bible, c'est dans l'histoire de Caïn et Abel. Il a envié le fait que le Seigneur ait agréé l'autre jusqu'à aller tuer l'autre, destructeur, destructeur. L'histoire de Salomon avec cette femme qui avait volé un enfant et qui puis il commence à se demander l'enfant appartient à qui, est échangé. Et il dit, ben, on va le couper en deux. La vraie mère de l'enfant, elle a dit, parce qu'elle l'aime. Elle l'aime. Elle ne veut pas qu'on perde cet enfant. Mais l'autre, c'est destructeur. Il dit, mais OK, si on ne veut pas, qu'on tue cet enfant. Envier l'autre, avoir de la jalousie qui vous pousse à aller jusque-là, ce n'est pas bon. L'amour ne se vante point. Se vanter, c'est se mettre en avant. Se vanter, c'est faire la parade. C'est se faire défiler, etc. Pour montrer ses réussites, pour montrer ses possessions. Se vanter, c'est se surestimer, se vanter, c'est faire en sorte qu'on soit insensé tout le temps, c'est vouloir s'afficher. Voilà, l'amour ne se vante pas. Corinthe, c'était ça qui les particularisait. Il voulait qu'on sache qui je suis, que ce soit dans l'éloquence, etc. Lui, il parle bien, il fait ceci, il agit bien, il s'habille bien. vouloir ces choses là-bas, c'est se vanter, donc c'est surestimer et vouloir s'afficher. L'amour ne fait pas ces choses. L'amour ne s'enfle point d'orgueil non plus. C'est toute l'attitude donc qui t'amène à enfler la tête. Donc tu t'élèves, etc. Et ce que l'amour fait plutôt, l'amour travaille au niveau du cœur. Ce n'est pas dans la tête qu'elle va enfler, elle va aller plutôt grossir. Donc elle va te donner un cœur gros qui va aimer le plus de gens. Tout le monde va trouver la place dans ton cœur. Voici ce que l'amour va faire. Pas pour aller enfler la tête de la personne. Et ça dénote évidemment, cet orgueil dénote une certaine dureté de cœur. C'est dû de dureté de cœur, une certaine arrogance, une certaine dureté de cœur qui sont à la base de beaucoup de querelles dans la vie des enfants de Dieu et même à Corinthe même. Nous l'avons vu quand on a étudié le chapitre 8. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour n'est pas inconvenant, ne fait rien d'inconvenant, quelque chose qui n'est pas convenable à l'autre. L'amour ne fait pas des choses qui paraissent grossières. L'amour ne fait pas des choses qui paraissent impolies, etc. vis-à-vis des autres personnes. L'amour ne fait rien qui manque de considération pour l'autre personne. Voici ce que l'amour fait. L'amour ne s'irrite point. S'irriter, ben, c'est se fâcher. S'irriter, c'est se fâcher pour n'importe quoi. Il y a des gens qui sont susceptibles. C'est un mot que tu dis, il a vu tout de suite une attaque dedans. Il y a des gens qui sont très susceptibles. Pour rien du tout, là, il s'est enflammé. L'amour ne s'irrite point. L'amour n'est pas prompt à la colère. On ne s'enflamme pas comme ça. On prend le temps de se calmer. Il est patient, justement. Si tu es patient, tu vas te dire, je vais voir jusqu'où ça va aller, puis je trouverai le bon moment pour parler à la personne. Et on ne s'irrite pas, on ne s'enflamme pas tout d'un coup comme ça. Et même s'il y a des raisons, des fois, même s'il y a des raisons. Je pense toujours à l'histoire de Paul et Barnabas quand ils faisaient le voyage. Et puis, ils ont voyagé avec le jeune Jean-Marc. Et puis, en cours de route, Jean-Marc les abandonne. Ils décident de rentrer à Jérusalem. Et puis, quand il s'agit de faire le deuxième voyage, Barnabas dit à Paul, on va aller rechercher Marc pour Jean-Marc pour voyager avec lui. Or, la Bible parle qu'il y a eu un vif dissentiment, il y a un vif désaccord. Il s'est irrité, dit, encore, tu parles de Jean-Marc, je ne veux plus le voir, ce gars-là. Tout Paul qu'il était, je ne veux pas le voir. Et vous savez comment ils ont fini par se séparer. Ils ont fini par se séparer. Donc, il ne faut pas être susceptible. C'est peut-être une erreur de jeunesse, on ne sait pas quoi, mais donnez-lui encore une chance. C'est ce que Barnabas avait fait. L'amour ne s'irrite pas. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, il n'y aura jamais d'occasion d'être irrité? Oui, il y a des occasions d'être irrité. Il y a des raisons pour lesquelles on peut s'irriter avec raison. C'est quand on trouve qu'on est en train de bafouer les choses de Dieu. Quand tu arrives dans un milieu, tu trouves qu'il y a des choses que l'on fait qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu peux t'irriter. Jésus-Christ a été irrité quand il est allé dans le temple qu'on avait fait du temple, caverne des voleurs. Il s'est irrité, il a chassé les gens. Il y a des raisons valables pour lesquelles on s'irrite. Mais on ne s'irrite pas juste pour des questions de susceptibilité, de petites choses, de rien du tout, là. Il faut savoir se calmer, il faut savoir se tenir tranquille. L'amour ne soupçonne point le mal. Dans d'autres versions, j'ai regardé, dans d'autres versions, l'amour ne tient pas compte du mal. Ou dans d'autres versions, l'amour ne médite pas le mal, ne soupçonne pas le mal. Pourquoi ? Parce que l'amour ne va pas garder rancune. Si tu médites faire le mal à quelqu'un, ça veut dire que tu as gardé rancune. Comme dans l'histoire dont je viens de parler de Paul et Barnabas. Non, Paul n'a pas gardé rancune. Il n'a pas gardé rancune contre Jean-Marc. Il s'est irrité, puis l'un est parti, l'autre est parti, parce qu'on le voit par la suite, beaucoup plus tard, qu'il fait appel à ce Jean-Marc. Jean-Marc vienne, il me sera d'un grand secours. L'amour ne soupçonne point le mal, ne garde pas rancune, ne garde pas de ressentiment, ne garde pas en mémoire le mal subi. Non seulement que ça nous ronge physiquement, de garder, de continuer à digérer tout le temps le mal subi, tourne la page, passe à côté, Seigneur, aide-moi à oublier, aide-moi à pardonner la personne, etc. Alors, l'amour doit être comme si tu prends une étincelle que tu jettes dans l'eau, là. Ça s'éteint, là. Tu ne gardes pas rancune, ça s'éteint. Là. Le feu que ça a allumé, le petit problème qu'il y a eu, ça te rentre dans l'eau, ça s'éteint, point, c'est très. Donc, l'amour ne soupçonne point le mal. Barnabas lui a pris Jean-Marc, malgré le faux bon, parce qu'il n'a pas gardé de problème envers lui. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. On aperçoit que j'ai sauté. Ne cherche pas son intérêt non plus. L'amour ne cherche point son intérêt. Vous vous rappelez, quand nous avons étudié le chapitre 11, qu'on avait parlé comment ces gens se retrouvaient pour prendre le repas, la Sainte Cène, ensemble. Chacun le faisait de son côté. Chacun cherchait son intérêt, mais ne se préoccupait pas de l'intérêt des autres. Ne pas chercher son intérêt, c'est regarder l'autre comme étant supérieur. Ne pas chercher son intérêt, c'est être soumis à l'autre par respect pour Christ. En Matthieu chapitre 20, verset 28, il nous dit ceci. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il a su comment aimer. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il est venu pour payer le prix pour d'autres parce qu'il les voyait comme importants, plus importants que lui. Plus important que lui. Amen. Donc, c'est ça, l'amour ne cherche pas son intérêt. Si nous lisons un autre texte dans Philippiens, chapitre 2, « Faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux aussi ceux des autres. Celui qui est habité par l'amour, celui qui est mu par l'amour, celui qui a l'amour en lui, il va regarder les autres comme étant au-dessus de lui-même. Il va considérer aussi les intérêts des autres et pas juste son propre intérêt. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne trouve aucune satisfaction dans le mal, dans le péché. Aucune satisfaction dans le péché. L'amour ne va pas trouver de satisfaction dans tout ce qui peut offenser Dieu. Mais l'amour va trouver satisfaction dans ce que nous avons appelé dimanche l'intégrité. L'amour va trouver satisfaction dans les choses qui sont droites. L'amour va trouver satisfaction dans la vérité. Amen. Et les chrétiens, nous devons vivre avec ces choses. La droiture, la vérité, l'intégrité, c'est ça. Et nous devons être attristés chaque fois que nous nous trouvons dans des situations où ces valeurs sont bafouées. L'intégrité, c'est important. Vous savez, il y a des choses que nous permettons de dire, que personne ne nous a demandé de dire. J'ai pensé à ça tout à l'heure quand on venait dans l'auto. On parlait d'une situation d'une personne. On ne demande rien à la personne. La personne vient vous raconter une version des faits. Mais vous apprenez par la suite que la version est totalement contraire à ce que la personne vous raconte. Tu viens raconter ça à l'église. Et la vraie version des faits, elle est tout à fait... L'intégrité, où est-ce que nous la mettons? La vérité, où est-ce que nous la mettons? Qu'est-ce que tu poursuis en venant habiller tes histoires et raconter des choses contraires? Recherchons l'intégrité dans les moindres choses, la droiture, la vérité dans les moindres choses. Tout quand nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, et même vis-à-vis des païens, c'est sûr et certain parce que nous avons dit que nous sommes des témoins. Ils nous observent, ils nous regardent. Ce que je dis ici de l'Église, c'est vrai aussi à l'extérieur. C'est même plus fort encore à l'extérieur parce qu'ils vont dire, mais lui, il dit qu'il est chrétien. Il a dit ceci hier, aujourd'hui, il dit le contraire. Et c'est quoi la vérité? C'est quoi? La droiture, c'est bon, bien aimé. Peut-être mieux se taire, ne pas parler, que de dire des choses que tu vas aller dire par la suite. L'intégrité, la droiture, c'est important que nous puissions vraiment être des véritables témoins de Christ. Donc, l'amour ne trouve aucune satisfaction dans toute chose qui offense Dieu. Et nous devons, nous, être attristés, évidemment, quand il y a des choses qui offensent Dieu. Si nous regardons l'histoire de David dans le psaume 69, il dit quelque chose, 69, le verset. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur. Que ceux qui espèrent en toi, que les enfants de Dieu, ceux qui espèrent en Dieu ne soient pas confus à cause d'une attitude que je peux avoir. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Si nous venons mener une vie d'intégrité, si nous venons mener une vie de droiture, nous allons veiller que tous ceux qui nous voient, tous ceux qui nous observent, tous ceux qui cherchent Dieu, qui ne soit pas dans la honte à cause de mon attitude qui est contraire à l'intégrité, à la droiture. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. C'est pour toi que la honte couvre mon visage. Donc, il finit par avoir honte à cause des agissements des personnes. C'est ça. Donc, on ne supporte pas tout ce qui n'honore pas Dieu. Voici ce que l'amour doit nous pousser à faire. Et comme nous voyons dans le texte que nous venons de lire, du verset 4 au verset 6 de 1 Corinthiens 13, nous voyons, si nous appliquons ça au rapport entre les enfants et les adultes, nous allons nous rendre compte que tout ce qui se passe du verset 4 jusqu'au verset 6, ça montre quasiment toute l'attitude d'un enfant. Si nous allons, l'amour est patient, un enfant n'est pas patient. Le contraire exactement. Et la parole de Dieu nous demande à nous à être des personnes matures, de ne pas rester comme des enfants. Un enfant est impatient. Un enfant n'est pas plein de bonté, il est bagarreur, etc. Un enfant n'est point envieux. Ben oui, il envie tout ce que l'autre a. Un enfant ne se vante point. Oh, non, il passe son temps à dire que je suis le meilleur, je suis le plus beau, etc. C'est vraiment une attitude d'enfant. Il ne fait rien de malhonnête. Les enfants, ils les cachent-cachent des enfants. Ils ne cherchent point son intérêt. Oh là là, l'enfant, tout est à moi. Tout. Je le vois à longueur de journée avec les enfants à côté de moi là-bas, tout le temps en train d'arracher à l'autre. Même quand c'est un objet qu'il a ramené de la maison, il veut lui arracher pour que l'autre pleure. Donc, c'est, voilà, ça manifeste vraiment le jeu des enfants. Il ne se réjouit point de l'injustice. Ben oui, hein, la vérité, ce n'est pas leur faute. Pas leur faute. C'est l'attitude purement enfantine. C'est des attitudes semblables aux agissements des enfants. L'enfant ne sait pas, dans le fond, ce qui est mal. L'enfant va faire du bien quand il sait que ça va avoir des répercussions. Hein. S'il peut avoir une fessée ou des choses comme ça, là, il va faire du bien. Mais en temps normal, non, c'est des coups bas à gauche, à droite qu'il va faire. C'est vraiment l'attitude des enfants. Et nous allons voir que les autres caractéristiques de l'amour que Paul décrit à partir du verset 7, le verset 7, etc., particulièrement verset 7, c'est des attitudes qui montrent un état de maturité. C'est des attitudes, les autres caractéristiques de l'amour, donc, sont attribuables à une personne qui est plutôt mature. Et on voit au verset 7 que l'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour est inclusif. L'amour ne choisit pas, n'exclut pas des personnes, je vais aimer celui-ci. Non, il ne veut pas dire que c'est dans ce cas seulement ici que je vais aimer, dans ce cas je ne vais pas aimer. Non, l'amour est inclusif. L'amour est inclusif et il voit toujours le meilleur chez l'autre. Même quand il y a des faiblesses, tu vas user de patience. Même quand tu vois des choses qui ne vont pas encore chez l'autre, tu vas user de patience. Tu vas dire, Seigneur va encore travailler sa vie. Je lui donne encore une chance. L'amour est vraiment inclusif. Il excuse tout. Je ne dis pas qu'il faut se compromettre, évidemment. N'importe, quelqu'un commet le péché, tu dis, oh, je ferme les yeux à ça. Non, non, ce n'est vraiment pas ça. Il excuse tout, il couvre, il protège. Il n'accuse pas gratuitement. Il n'accuse pas gratuitement. L'amour croit tout. On peut lire le proverbe, ce qu'il dit, proverbe 10. Voilà. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ce n'est pas qu'il faut se compromettre, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Mais il couvre toutes les fautes, il pardonne, il comprend que la personne était dans tel état, il comprend que la personne n'était pas peut-être en bonne position, et puis ben, peut-être il lui dira de se corriger plus tard. Il va lui donner la chance, il va lui donner la chance à l'autre. Donc l'amour couvre toutes les fautes, l'amour est inclusif. Il croit tout, l'amour crois tout, je fais confiance. C'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ, je lui fais confiance. Il a le bénéfice du doute. Jusqu'à ce que j'ai la preuve contraire, là je peux peut-être changer d'attitude, mais je crois que c'est un enfant de Dieu, je crois que c'est un élu de Dieu, je crois. Je lui donne le bénéfice du doute, je ne commence pas à soupçonner les personnes. Amen. En tout cas pas comme les amis de Job. Vous connaissez comment ils l'ont fait marcher là. Ils ont voulu le convaincre de toutes sortes de façons. Il avait beau clamer son innocence. Je n'ai rien fait de mal. Ah non, non, cherche bien. Cherche. L'amour n'est pas comme ça. L'amour croit. Il dit, frère, tu as dit ça, prions pour toi. Le Seigneur sait pourquoi tu es malade. Le Seigneur sait pourquoi tu es ici. Mais ne commence pas à pousser quelqu'un à chercher. Frère, regarde bien dans ta vie là. Regarde bien dans ta vie. Malheureusement, souvent c'est le cas. Hein, parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un peut tomber malade, quelqu'un peut perdre un emploi, que quelqu'un peut connaître des situations difficiles. Comme ça, là. Hein? L'ennemi travaille, c'est sûr et certain, mais ce n'est pas parce que tu as nécessairement péché. L'amour croit tout et donne le bénéfice du doute. Il voit le meilleur chez l'autre. Il se dit qu'il compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu agit encore et la grâce de Dieu peut aller faire des choses dans la vie de cette personne. L'amour croit tout, comme les parents croient que leur enfant. Exactement. L'enfant peut être difficile. L'enfant peut connaître des temps difficiles. L'enfant peut être dans la rue, le cœur des parents ne lâche pas. Le cœur des parents continue à croire jusqu'au bout qu'un jour cet enfant reviendra. Il changera, il deviendra une personne responsable. L'amour croit tout. Je pense aussi que c'est la même chose dans les couples. Quand on est dans un couple, que l'un est difficile, donner la chance à l'autre, dire voilà, je crois que Seigneur que tu vas agir, tu vas agir, je crois que tu vas agir. La grâce de Dieu continue à couler encore. Amen. L'amour supporte tout. Vous voyez qu'il y a une sorte de gradation, hein? Ça va en montant, ça va en montant. L'amour supporte tout, il tient ferme, il ne lâche pas vite. Il ne lâche pas vite, il tient ferme et il continue. L'amour persévère. Beaucoup de qualités, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions réellement les avoir. Alors, nous allons au verset 8 jusqu'à 13. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est la troisième partie donc, que nous allons examiner de ce chapitre 13, où Paul montre que l'amour est vraiment le seul moyen de nous faire ressembler à Christ. C'est vraiment le seul moyen pour nous faire ressembler à Christ. Ça doit être la caractéristique des membres de la famille de Dieu, des enfants de Dieu. Nous devons rechercher l'amour plus que toute autre chose, parce que l'amour ne périt pas. L'amour n'a pas de fin. Amen. Si l'amour caractérise Dieu, Dieu n'a pas de fin, l'amour n'a pas de fin, l'amour restera pour toujours. Amen. Et l'amour tend vers la perfection. Dieu nous transforme de jour en jour, Dieu nous amène à aimer davantage comme il nous a aimés, et nous tendons, nous allons de perfection en perfection. Nous ne pouvons certainement pas aimer comme Dieu nous a aimés, peut-être pas, mais chaque jour qui passe, plus nous nous approchons de lui, il nous transforme de mieux en mieux que nous puissions aussi aimer. L'amour ne périt jamais. L'amour n'abandonne jamais. On ne peut pas dire « je vais aimer pendant quelques années » et puis après, n'abandonne jamais. L'amour a un caractère durable, a un caractère continu. L'amour va survivre à toutes nos défaites. Nous pouvons connaître des faiblesses de toute nature, mais l'amour restera toujours. Et dans cette troisième partie, Paul fait donc des comparaisons. C'est beaucoup plus trois ou quatre types de comparaisons que Paul fait entre l'amour et les différents dons pour lesquels les gens se battaient à Corinthe. Il veut montrer que l'amour vraiment est beaucoup plus important et a des qualités différentes de ces dons. Tous les dons dont il parle ici, il parle des prophéties au verset 8. Il dit « les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie ». Donc par rapport à ces trois dons, il compare l'amour comme étant éternel. Ne périt jamais. L'amour est éternel alors que tous ces dons sont temporaires. Les uns seront abolis, les autres cesseront, la connaissance sera abolie. C'est temporaire que nous avons ces choses. Mais l'amour, lui, est éternel parce que c'est, comme on l'a dit, c'est le caractère éminent de Dieu. Les langues cesseront un jour, les prophéties, les connaissances seront abolies un jour, seront rendues inopérantes un jour parce que c'est temporaire. Évidemment, quand vous lisez des commentaires, etc., vous allez peut-être voir qu'il y a des personnes qui sont parties de ce passage pour commenter en disant « Voilà pourquoi depuis le temps après les apôtres, il n'y a plus de parler en langue. Il n'y a plus de don de prophétie. Les langues, pour eux, ils ont cessé avec la fin des apôtres. » Ce n'est pas vrai. Parce que Paul en parle plus tard, d'ailleurs, au chapitre 14. Il en parle. Ce n'est pas que les langues ont cessé, etc. Mais les langues cesseront un jour et nous allons voir à quel moment elles cesseront. C'est quand nous serons, alléluia, face à face avec notre Dieu. Amen. Les langues continuent. Les prophéties existent, continuent encore. Ceci ne veut pas dire donc que les langues et les prophéties ont cessé. Hein? Alors, verset 9, il dit, l'amour est éternel. Au verset 8, les langues et les autres dons sont temporaires. Au verset 9, il dit, quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce sont des dons qui ne donnent qu'une réponse partielle. C'est en partie que nous avons la connaissance. Nous ne connaissons pas tout pour faire face aux besoins de l'humanité, aux besoins des hommes. Nous ne connaissons pas tout. Dieu ne nous a pas tout révélé. Amen. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne savons pas tout ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'il faut annoncer concernant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle au fur et à mesure. Chaque jour qui passe, il nous révèle des choses. Mais il ne nous révèle pas tout. Il ne nous révèle pas tout. Ces dons sont partiels. Non pas parce que Dieu a créé des dons en disant ils sont limités. Non, non. La limite qu'il y a à ces dons est liée à nous, les personnes. Nous, nous sommes finis. Nous avons des faiblesses humaines. Nous avons la nature qui nous empêche d'exercer ça pleinement. Nous sommes limités aussi parce que l'homme est tout simplement limité. Ces dons, ce n'est pas Dieu qui a dit « je les limite à ceci ». Non. Mais ces dons sont limités à cause de nous, à cause de notre nature, à cause de la faiblesse humaine. Les dons sont partiels. Nous connaissons en partie et nous ne connaissons pas tout ce qui concerne Dieu. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc quand nous verrons le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, quand nous verrons le Seigneur face à face, l'amour, lui qui est éternel, restera. Amen. Et il va achever ses œuvres en nous, alors que les dons partiels, qui eux sont imparfaits, évidemment, seront rendus inactifs à ce moment-là. au verset 11, on dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Comme enfant, on fait des choses, comme je le disais tout à l'heure, par peur de la punition. Et non, on n'est pas poussé par l'amour. Ce n'est pas l'amour qui nous pousse à faire tout ce que nous faisons. On fait souvent des choses dans la droiture parce qu'on se dit, si je ne fais pas, il va y avoir une fessée. Mais quand on devient adulte, quand la majorité sera là, nos agissements seront poussés, motivés par l'amour. Et on voit donc aujourd'hui, comme il dit au verset 12, on voit aujourd'hui au moyen d'un miroir. Tout ce que nous voyons comme enfants de Dieu, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voyons au moyen d'un miroir. Alors, il semble qu'à l'époque, Corinthiens, les miroirs, ce n'étaient pas des miroirs comme les nôtres aujourd'hui en verre. Il semble que c'était des miroirs qui étaient faits sur du fer, etc. Du fer très poli, là, quelque chose qui était très poli. Ça veut dire que même si c'est bien poli, même quand tu vas te mirer dedans, ça ne te reflète pas. C'était une image un peu déformée. De manière un peu obscure. Ce n'est pas aussi clair que nous voyons maintenant avec les miroirs actuels. Alors, c'est des miroirs, ils étaient les meilleurs de cette époque, c'était des miroirs de Corinthe. Ils étaient polis, mais ils reflétaient une image un peu tordue de la personne. De la même façon, l'homme, même s'il est racheté, il est exposé encore à certains agissements inappropriés à cause de la nature, à cause de la nature humaine, à cause d'une conscience affectés même par nos cultures. Donc, nous voyons de manière confuse aujourd'hui, alors que quand nous verrons, nous serons face à face, et avec les prières qui les accompagnent, on ne les sort pas pour nous en débarrasser, on les sort pour qu'ils réfléchissent, on continue à prier pour ces personnes. Que le Seigneur nous aide à y arriver. Amen. Tous ces événements, c'était des événements en faveur donc, du peuple de Dieu. Nous avons vu comment la reine Vasti, qui est la fille du pays, pour une... Va-t-on appeler ça une erreur d'appréciation ou je ne sais pas quoi? Elle se fait tout simplement détrôner et supplanter sans se poser beaucoup de questions. La main de Dieu se fait supplanter par qui? Pas par une autre reine perse, mais par une juive. Premier pion placé par Dieu. Nous avons vu comment Aman a été élevé. On ne sait pas trop comment, mais il a été élevé à un moment en dignité. Mais à cause de ses erreurs, etc., il a été réduit à néant jusqu'à la mort au profit de qui? D'un juif, au profit d'un juif, la main de Dieu. Nous avons vu comment l'édit qui condamnait les juifs a été remplacé par un autre qui réglait le problème et qui mettait un terme finalement à toutes les manigances des ennemis des juifs. Un message fort. Les ennemis voulaient faire un message fort pour tuer les juifs. Ça a été contré par un autre édit, édicté par les lois, par le roi, contre tous les ennemis du peuple juif. Nous avons vu aussi, pas de hasard, la potence qui a été fabriquée par Aman a fini par se retourner contre lui, que la Bible appelle l'ennemi des Juifs. Toutes les circonstances en faveur du peuple juif. Quelle ironie vis-à-vis de toutes ces personnes. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer en tirant quelques dernières leçons, même si le livre est destiné d'abord aux Juifs. C'était comme des messages qui étaient envoyés aux Juifs pour les encourager dans la vie qu'ils menaient, etc. Mais nous avons à tirer des leçons nous-mêmes ici. Ça veut dire que même si Dieu peut donc des fois paraître lent, appelez ça comme vous voulez, lent à répondre, lent à agir, absent ou discret dans nos situations, des fois on a l'impression que Dieu n'est pas là. Je venais de dire tout à l'heure, quand j'ai pensé à ma fête, l'histoire de Job à un moment donné, peut-être qu'il a fini par penser que Dieu était loin de lui, etc. Nous pouvons aussi vivre des situations comme ça. Même si nous avons l'impression que Dieu tarde d'agir, nous tirons des leçons ce soir en terminant, que nous sommes appelés à continuellement mettre en lui notre entière confiance. Parce que nous sommes à lui, nous sommes le troupeau de son bercail, nous sommes son peuple. Autant qu'il a aimé le peuple juif et qu'il l'a mis à part, qu'il l'a choisi comme son peuple, nous avons aussi été choisis par Dieu. Nous faisons partie de sa famille. Il ne peut pas, d'aucune manière, il ne peut pas être indifférent à la misère de sien, à la misère de son peuple. Il peut ne pas répondre au moment où vous l'attendez ou comme vous l'attendez, mais il n'est pas indifférent à ce que nous pouvons vivre. La dernière chose que je voudrais que l'on retienne ce soir, et c'est seulement ceux qui comptent sur Dieu, seulement des gens comme ça, seuls qui comptent sur Dieu, sont capables de vivre dans un monde qui est de plus en plus hostile. Il l'est aujourd'hui, dans 5 ans, il le sera encore plus vis-à-vis des enfants de Dieu. La méchanceté va aller en grandissant d'année en année. Seulement ceux qui comptent sur Dieu seront capables de passer à travers des moments d'hostilité qui vont aller en grandissant dans notre vie. Mais nous devons savoir que nous passerons à travers ces moments difficiles parce que sa souveraineté est encore actuelle. Sa souveraineté est en action, de même que sa capacité d'influencer les temps et les circonstances, de même que la capacité d'influencer ton destin et le mien. C'est que lui qui peut le faire. Nous avons intérêt à avoir confiance en Dieu. Nous attendre à lui, des fois on ne comprend pas, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à continuer à fixer mes regards sur toi. Aide-moi.
Amen.